capo alla source.
Caroline.
Et bienvenue dans Anti-Histoamétropique, votre émission d'histoire locale ou lointaine sur Radio Vassivière. On part pour notre deuxième épisode de cette série sur l'histoire des grands empires musulmans et nous attaquons enfin l'Empire Ottoman. Nous reprenons en 1299, date communément acceptée comme année de naissance de ce mastodonte. Bref, les Ottomans sont avant toute chose au départ un peuple venu des steppes d'Asie centrale. Ils vont petit à petit s'installer en Anatolie. L'Empire atteint son apogée à la fin du XVIIe siècle, avec une superficie de 5,2 millions de kilomètres carrés. Ce vaste territoire s'étendait des frontières de l'Autriche aux rivages de la mer Caspienne et des côtes de l'Afrique du Nord au golfe Persique. En plus de sa population musulmane, il incluait des minorités ethniques comme les Arméniens, les Grecs ou les Azéris, et des minorités religieuses comme les Juifs, les Catholiques ou les Orthodoxes. Mais tout commence dans une certaine confédération de tribus vivant au nord de la mer d'Aral, les Oghouzes. Ils sont chassés de leur terre natale par les Mongols de Gengis Khan, et ils s'installent à la frontière du sultanat Seldjoukide. En même temps, à cette époque, l'Empire byzantin, c'est-à-dire l'Empire romain d'Orient, n'est déjà plus que l'ombre de lui-même. En effet, il se trouve déjà acculé au détroit du Bosphore. Et pourtant, il deviendra l'un des principaux ennemis des Ottomans qui finiront par définitivement le rayer de la carte. C'est alors qu'un fils d'un chef oghouze, Osman, arrive au pouvoir en 1290. Il devient vassal des Seldjoukides. Mais l'homme a de l'ambition. Bien qu'il ait uniquement pour mission la défense des régions frontalières, il souhaite mener une guerre sainte et propager l'islam autour de lui. Et le seul peuple non musulman autour, eh bien ce sont les orthodoxes byzantins. L'adversaire est donc tout trouvé. En 1299, il conquiert la ville byzantine de Mokadène. Passant de nouveau à l'offensive le 27 juillet 1302, Osman défait une fois de plus les Byzantins à Nicomédie. Il est désormais le rang de sultan. Suivent 20 ans de guerre contre les chrétiens et autant de victoires qui lui permettent d'enrôler les vaincus dans son armée. Après sa mort, chaque nouveau sultan entendra lors de son intronisation le peuple crier « Puisse-t-il être aussi grand qu'Osman ?» Passons maintenant un peu plus d'un siècle. Nous arrivons à 1432. Mehmed II monte sur le trône à 20 ans. C'est un ambitieux qui rêve de bâtir un empire aussi vaste que celui de son modèle Alexandre le Grand. Pour y parvenir, il a une obsession, s'emparer de Constantinople, ce bastion grec et chrétien qui nargue les Ottomans depuis tant d'années. Réussir là où son arrière-grand-père Bayezid Ier puis son père Mourad II ont échoué. Dès son avènement en 1452, il fait construire un fort sur la rive européenne du Bosphore pour surveiller le détroit. Pris en étau, l'empereur byzantin Constantin XI, paléologue, demande de l'aide à l'Occident. Sans succès, les cités de Venise et Gênes, dépendantes d'intérêts commerciaux avec le sultan, ne réagissent pas. Le pape français, Innocent VI, demande l'union des églises byzantines et catholiques, autrement dit la soumission de Constantinople à Rome. Les Byzantins refusent, car ils n'ont pas oublié les atrocités commises par les croisés en 1204. Près de 250 ans plus tard, la ville à moitié en ruine emporte toujours les stigmates. Devant le désintérêt européen pour celle qui fut jadis Byzance, Mehmet II comprend que c'est le moment idéal pour l'attaquer. Le 7 avril 1453, 160 000 de ses soldats plantent leur tente au pied des hautes murailles de Théodose, ces remparts du 4e siècle après Jésus-Christ qui entourent la ville. Une enceinte défendue par 7000 hommes seulement, dont 700 Génois et quelques Vénitiens téméraires. Du haut des Mâchicoulis, ces derniers voient arriver trois énormes canons que Mehmet II a fait construire en Hongrie spécialement pour la bataille. Cette semaine durant, ces monstres de bronze envoient des boulets qui ouvrent de grandes brèches dans les murs. Un premier assaut de l'infanterie ottomane est repoussé le 18 avril. Mehmet II s'étonne et enrage face à une telle résistance. D'autant plus que sa flotte est stoppée net par une chaîne qui barre désormais l'entrée de la Corne d'Or, cet estuaire formant un port naturel dans la ville. Le siège s'éternise. Craignant une intervention des Occidentaux, le sultan fixe l'assaut final au 28 mai. À minuit, les janissaires, troupes d'élite de l'infanterie, s'élancent. Après trois attaques successives, les soldats pénètrent enfin dans la ville. La mise à sac commence. Au son du tocsin, les Byzantins fuient en masse vers le Bosphore et la mer de Marmara. Des milliers d'entre eux s'enferment dans la basilique Sainte-Sophie. Ils sont égorgés sur place, tandis que les survivants sont escortés à coups de fouet jusqu'aux vassaux ottomans pour être expédiés vers des marchés aux esclaves. Constantin XI, lui, est mort au combat et plusieurs officiers génois et vénitiens sont décapités. L'après-midi du 29 mai, Mehmet II pénètre dans la ville sur son cheval blanc, imitant l'entrée d'Alexandre le Grand en Babylone en 331 avant Jésus-Christ. Au milieu de cadavres, il pose un pied sur les pavés ensanglantés et se dirige vers la basilique Sainte-Sophie, où il invoque Allah pour en faire une mosquée. « Puisse la maison d'Osman se perpétuer ici pour toujours », déclare-t-il. L'Empire romain d'Orient n'existe plus. Enivré par cette victoire, le sultan se fait appeler Kaiser Hiroum, César des Romains, et multiplie les conquêtes. L'Empire grec de Trébizonde en 1461, la Bosnie en 1463, la colonie vénitienne de Nègrepont en 1470 et les territoires génois de Crimée en 1475. Tous tombent sous le pouvoir du sultan, qui laisse à sa mort un empire emmené par une puissante armée, écrasant tout sur son passage. Le sultan s'éteint en 1481. Parlons maintenant du plus flamboyant des sultans ottomans, le très bien nommé Soliman le Magnifique qui régna de 1520 à 1566. Il fut le législateur d'un empire qui connut l'abondance et le raffinement, mais surtout l'homme à la tête d'une des plus puissantes armées de l'époque, ce qui lui permit de défier sans relâche l'Europe chrétienne en s'alliant notamment à un certain roi de France, François Ier. Arrivé au pouvoir à 25 ans après la mort de son père, le jeune sultan manifeste tout de suite une volonté de justice. Soliman déclare qu'il est un pieux souhaitant renforcer le sunnisme et encadrer les musulmans de l'empire. Si en Europe on le qualifie de magnifique à cause de son luxueux train de vie, à Constantinople les ottomans l'appellent Kanouni, le législateur, tant il réforme son pays. Il revoit un code pénal ottoman appelé le Kanoun, commencé à part son arrière-grand-père, le grand Mehmet II. Cela lui permet d'organiser au mieux l'État et l'armée, ainsi que l'administration des impôts, et d'établir, entre autres, une liste d'amendements concernant les délits comme la fornication, les injures, l'alcoolisme, le vol ou encore le pillage. Moins impitoyables que ceux de ses prédécesseurs, ces lois prévoient davantage de punitions financières que de condamnations à mort, même si on continue de marquer au fer rouge les proxénètes ou de couper une main au voleur. Il érige aussi de gigantesques mosquées jusque dans les provinces reculées. Très vite, il crée une architecture qu'il perfectionne avec un style caractéristique de l'ère Soliman. Des monuments dotés de coupoles et de tours étagées aux formes rondes et aux larges fenêtres. Le goût du monarque pour le raffinement s'exprime aussi dans d'autres domaines artistiques. Féru d'enluminures, il s'entoure dans les années 1540 d'orfèvres de céramistes qui prennent leur résidence au palais de Topkapi pour bénéficier de ses largesses et de ses banquets, organisés lors de somptueuses réceptions d'émissaires étrangers. Soliman est surnommé le Grand Turc par les Occidentaux, car il les effraie autant qu'il ne les séduit. L'Europe chrétienne est sous la coupe de l'empereur du Saint-Empire germanique Charles Quint, l'héritier de la puissante dynastie des Habsbourg. Ces derniers souhaitent unir autour de son empire tous les États européens afin de mener une croisade contre Soliman. Puis, profitant du conflit entre François Ier de France, Henri III d'Angleterre et Charles Quint, il envahit la Hongrie, décimant les armées hongroises. Le dernier obstacle se dressant devant lui n'est autre que la ville de Vienne. Mais les campagnes viennoises de 1529 et 1532 se soldent par un échec pour les troupes ottomanes. Suite à cet échec, le duel se déplace en Méditerranée, carrefour commercial important entre l'Afrique, l'Europe et l'Asie. Soliman va trouver un allié en la personne de François Ier qui souhaite tout faire afin de nuire à Charles Quint qui encercle la France avec au sud l'Espagne et à l'est le Saint-Empire. On qualifie cette union entre la fleur de lys et le croissant de sacrilège. En avril 1543, la flotte turque dirigée par un certain Barberousse se dirige vers l'Italie, ravage sur son passage les côtes de Calabre, de Corse et de Naples, avant d'être reçue à Marseille en grande pompe et de se rendre à Toulon pour l'hivernage. La cathédrale Sainte-Marie-Majeure fut même transformée en mosquée. À la fin des années 1540, les Ottomans sont enfin maîtres de la Méditerranée. Pour conclure sur cet extraordinaire personnage historique, on ne peut que parler de l'histoire de sa mort. En 1566, le conquérant part pour une 13e campagne en Hongrie, où l'avancée ottomane est stoppée par une impressionnante résistance hongroise lors du siège de la forteresse de Szigetvár. Les ordres militaires viennent de la tente du sultan. En réalité, ils sont écrits par son grand vizir qui cache la mort de Soliman afin de maintenir les troupes en ordre de combat. La supercherie continuera jusqu'au retour à Istanbul. Soliman aura deux tombes, une partie de ses restes est enterrée en Hongrie et le reste de sa dépouille en Turquie. Passons maintenant en 1683, et un épisode connu pour nous Européens. Le 14 juillet, les troupes turques encerclent Vienne. Une armée de 200 000 hommes fait face à la ville, défendue par seulement 15 000 soldats. Le siège est impitoyable, mais les Viennois résistent. Le 4 septembre, les Turcs parviennent à ouvrir une brèche. La ville semble cette fois à leur merci. Mais le 12 septembre, une armée de secours, commandée par le roi de Pologne Jean III Sobieski, oui, comme la vodka, et le général autrichien Charles de Lorraine et leurs 65 000 hommes surgissent de la colline de Kahlenberg surplombant la cité. Voyant le camp ottoman sans défense, Jean III s'exclame « Ce général ne connaît rien à la guerre. Nous allons le vaincre !» Et c'est ce qui arriva. Débordée par les Autrichiens et les Polonais, l'armée ottomane en pleine débâcle laissa sur le champ de bataille 15 000 morts et 5 000 prisonniers. Si je vous parle de cette bataille, c'est qu'elle est un jalon important dans l'histoire de cet empire, puisqu'après, la déroute ottomane contre les Européens se poursuit, jusqu'à perdre son hégémonie régionale et petit à petit son statut de grande puissance. En 1718 est signé le traité de Passarowitz, marquant le début de ce que l'on appelle l'ère des tulipes et le début de l'occidentalisation de l'empire. En 1770, la flotte turque est détruite par les Russes, qui occupent ainsi la Crimée. En 1798, Napoléon envahit l'Égypte et ne sera repoussé que par l'alliance des Ottomans avec les Anglais. L'Empire devient une puissance régionale et plus une réelle menace. Il est l'allié des Français et des Anglais lors de la guerre de Crimée contre les Russes de 1853 à 1855. La Russie deviendra la grande rivale de cette dernière, souhaitant étendre son influence sur les Balkans, alors occupé par l'Empire ottoman. Mais tout au long du XIXe siècle, les Balkans ont pris petit à petit leur indépendance, à commencer par la Grèce en 1830, qui ne cessera par la suite de vouloir réaliser sa grande idée, qui était de réunir les territoires de la Grèce antique et donc de récupérer la Thrace orientale aux Turcs, et même occuper une partie de l'Anatolie. Ensuite, après une guerre russo-ottomane en 1878, se fit le tour de la Roumanie, la Bulgarie et la Serbie. Et enfin, après les guerres balkaniques de 1912-1913, l'Albanie indépendante fut créée. C'est ainsi que l'Empire ottoman entra en guerre aux côtés des Allemands, de l'Autriche-Hongrie et de la Bulgarie lors de la Première Guerre mondiale. Le pouvoir est alors aux mains du parti du comité Union et Progrès, plus connu sous le nom de Jeunes Turcs, composé en particulier du triumvirat d'officiers Talat Pacha, Enver Pacha, Edmelaj Pacha. Ces derniers planifieront et exécuteront d'avril 1915 à juillet 1916 un génocide à l'encontre de la population chrétienne arménienne, au cours duquel les deux tiers des Arméniens qui vivent alors sur le territoire actuel de la Turquie périssent. Ils coûtent la vie à environ 1 200 000 Arméniens d'Anatolie et d'Arménie occidentale. Les déportations et massacres sont préparés et organisés depuis Constantinople et mis en œuvre à l'échelle locale par les responsables des divers districts et provinces. Chaque responsable local est chargé de rassembler ses administrés arméniens, puis les soldats et gendarmes ottomans escortent les convois jusqu'au désert dans des marches de la mort et procèdent eux-mêmes aux assassinats ou laissent libre cours à la violence de groupes de bandits armés, majoritairement kurdes. De nombreux criminels regroupés dans ce qui sera connu comme l'organisation spéciale, ont été libérés par les autorités à cette fin. Après la défaite, le sultan est contraint de signer le traité de Sèvres le 10 août 1920, qui anéantit l'Empire et le réduit aux deux tiers de la Turquie actuelle. Les Turcs se sentent donc humiliés. Un ancien officier, Mustafa Kemal Pacha, le futur Atatürk, père de la nouvelle Turquie, fonde à Ankara un gouvernement rebelle rejetant le traité de Sèvres. Il est rejoint par une centaine de députés du Parlement ottoman, renforçant sa légitimité et ruinant celle du sultan. Les Kémalistes réoccupèrent à la suite d'une nouvelle guerre violente contre les Grecs et certains pays du Caucase, certaines des terres perdues. Le sultanat est aboli le 1er novembre et le régime d'Ankara devient officiel le 4. Le 24 juillet 1923, le traité de Lausanne est signé, rendant officielles les nouvelles frontières turques. Le 6 octobre, l'occupation d'Istanbul prend fin avec sa rétrocession et le 29, la République est proclamée. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Pour les prochains épisodes, nous retournerons en Limousin. D'ici là, vous pouvez toujours me contacter et m'envoyer vos recherches perso sur l'histoire locale par mail à martin@radiovassivière.com. Plein de bonnes choses à vous et à la prochaine.
frappe à la source.
Ah,
métro.